Voilà, bonjour à tous. C'est bon d'être dans la présence du Seigneur. Hein ? Qui s'est fait du bien ce matin dans ce temps de louange ? On termine ce matin notre thématique sur l'église locale et l'importance de notre engagement et de notre attachement envers cette dernière. On a vu l'importance de s'engager dans l'église en tant que membre, mais aussi au travers de notre service, en étant serviteurs les uns des autres, serviteurs auprès de la communauté. On a vu aussi l'importance de notre redevabilité les uns envers les autres. Mais ce matin, on va voir également l'importance de notre engagement financier en vue du développement du royaume de Dieu. Et là, j'entends des amens dans la salle. Alléluia. S'il y a bien un sujet tabou dans nos églises, c'est bien celui de l'argent. Pourtant, on voit que le sujet de l'argent est un des sujets les plus traités dans la Bible. Jésus a parlé plus souvent d'argent qu'il ne l'a fait d'autres sujets, excepté quand il parle du royaume de Dieu. La Bible contient des centaines de références à l'argent et à la richesse. La forte présence de ce sujet dans les Écritures nous révèle donc la place de l'argent dans le cœur humain et l'enjeu spirituel qu'il y a derrière. Comment un disciple de Jésus peut-il glorifier Dieu avec son argent dans une société où l'argent est omniprésent? On va voir ce matin, dans ce message, que notre rapport à l'argent est révélateur de notre vie et de notre santé spirituelle. Pour traiter de ce sujet, j'ai eu à cœur de partager avec vous le passage de Luc 16, 1 à 13, où Jésus raconte une parabole pour le moins étrange lorsqu'on la lit pour la première fois. Et on va faire la lecture maintenant. On n'a pas dans le PowerPoint, on ne met pas le PowerPoint tout de suite. On va juste faire la lecture. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Luc 16, au verset 1 à 13. Je vous lis dans la version second 21. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet ? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire ? Puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens. Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. » Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » ?»« Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, » répondit-il. Il lui dit, « Voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » « Je dois 100 mesures de blé, » répondit-il. Et il lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans des habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Alors en elle-même, la parabole, elle est très simple. Un homme riche découvre que son gérant a mal utilisé ses fonds et il décide de le licencier. Mais avant que l'homme riche ait mis en exécution le licenciement, le gérant met en place un plan ingénieux destiné à assurer son avenir. Il appelle les débiteurs de son employeur, il diminue les dettes de chacun de 20 et de 50%. Ces gens seront par la suite si reconnaissants envers lui que lorsqu'il aura perdu sa place, ils se sentiront obligés de l'aider. Quel plan astucieux, mais aussi malhonnête. Alors notre difficulté en tant que chrétien, c'est comprendre pourquoi Jésus semble mettre à l'honneur ce que cet homme vient de faire. Comment Jésus peut-il utiliser une action malhonnête pour illustrer une vérité spirituelle importante? Et c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Avant d'attaquer l'analyse de ce passage, il est important juste de situer le genre littéraire de ce passage. Ici, c'est une parabole. On en compte une cinquantaine dans les évangiles. Les paraboles, ce n'est pas quelque chose que Jésus a inventé, c'était une forme littéraire en usage courant en Israël. Ces derniers, ils utilisaient les paraboles, ce langage symbolique, comme mode de discours. C'est une forme de discours utilisée par Jésus afin de communiquer, d'enseigner, d'illustrer et de persuader en utilisant une ou plusieurs images. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les paraboles de Jésus appartiennent presque entièrement au monde séculier. On y retrouve peu d'activités religieuses. Si on coupait les liens de ces paraboles avec Jésus, on n'y verrait pas nécessairement la partie religieuse qui est derrière, et encore moins la partie théologique qui est enseignée derrière. Qu'est-ce que cela, ça veut dire ? Amar Djabala, qui est docteur de la faculté de théologie évangélique à Montréal, il exprime très bien en disant « C'est dans la vie de chaque jour que des décisions à portée spirituelle sont prises. À leur tour, ces décisions spirituelles ont des conséquences pour la vie de tous les jours. » Le but de la parabole est de tirer une leçon spirituelle au moyen d'une histoire de la vie normale, au moyen de l'histoire de quelque chose du quotidien. Ça compare une vérité spirituelle avec une expérience commune, propre à chacun, ou commune à une circonstance de la vie que les uns et les autres peuvent traverser. Le but de la parabole, c'est aussi de chercher à surprendre et interpeller celui qui l'écoute, l'auditeur. Soit par la vivacité de l'histoire, soit par la bizarrerie de l'histoire, en laissant un doute quant à son sens et son application. Genre, quand on entend une parabole, on doit se dire, mais comment, qu'est-ce que je dois faire avec ça? C'est quoi l'application? Et c'est vraiment le but, parce que le but d'une parabole, c'est de faire réfléchir, c'est de nous faire penser activement. Dans notre passage, comment Jésus voulait nous faire réfléchir? Qui voulait-il faire réfléchir? Et le texte nous le dit dès le départ, il parle à ses disciples. Donc c'est aux chrétiens qu'il s'adresse, c'est à ceux qui marchent avec lui. Vous savez, notre Dieu nous a dotés d'un cerveau, c'est pas une option, c'est pour l'utiliser, c'est pour qu'on s'en serve. Et j'aime à croire, et j'aime que notre Dieu ne nous a pas créés pour être des robots religieux, mais qu'il nous a dotés de la capacité de réfléchir et de penser nos choix afin de faire les bons, afin de prendre les bonnes décisions. Un point important et à retenir également, c'est que dans une parabole, il ne faut pas s'attacher à chaque détail de l'histoire. Il faut juste retenir le point central et la vérité l'auteur cherche à faire ressortir. Les détails donnés par la parabole sont seulement là pour aider l'auditeur à s'identifier, pour être dans une histoire, dans quelque chose qu'il connaît, pour être dans son élément, on pourrait dire, pour qu'il puisse s'y retrouver. Et non pas pour essayer de faire sortir des vérités cachées. Vous savez, les chrétiens, on est des spécialistes. Si on prenait cette parabole et qu'on voulait faire sortir un sens caché, on dirait il parle d'huile, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Arrêtez tout de suite. C'est pas comme ça qu'on interprète une parabole. Il n'y a pas de vérité cachée derrière l'huile ou derrière le blé dans ce passage. Le but, c'est juste qu'on se sente dans notre contexte et qu'on comprenne de quoi on parle et en même temps que ça nous déstabilise. C'est ça le but de la parabole. Alors on va attaquer tout de suite l'analyse. Et le premier point, c'est que nous avons besoin de faire preuve de bon sens avec notre gestion de l'argent. Et on relit les versets 8 et 9. « Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. » Notre texte est clair dans les propos de Jésus. Il reconnaît que ce gérant était malhonnête. Plusieurs fois, on le voit. Et l'éloge qui lui est faite, ce n'est pas sa malhonnêteté ou sa moralité, mais son habileté. Jésus illustre ici une vérité. Même les gens de ce monde savent prendre leurs précautions pour se protéger d'un mal à venir. Ici, notre personnage anticipe le fait d'être licencié. Il a pensé à l'avenir et il a pris des dispositions pour ça. L'idée ici, c'est que les enfants de ce monde, c'est l'expression qu'il y a dans le texte, comprennent bien le fonctionnement du monde. Alors que les enfants de la lumière, et on voit que Jésus oppose les deux, semble ne pas comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu et de ses enjeux. Le mot habileté qui est employé ici dans ce passage, ça vient du grec phronimos, qui nous parle d'une sagesse orientale, d'une intelligence pratique, d'un bon sens, et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament, notamment dans les Proverbes. C'était l'apanage des sages et de ceux qui savent se sortir de mauvaises situations. La dimension éthique n'est pas toujours prédominante dans ces moments-là. C'est pour ça que l'histoire, elle est un petit peu, mais on dit, voilà, moralement, c'est un peu chaud quand même. Mais l'élément qui en ressort, c'est la capacité de sortir de ces difficultés. Jésus dit que les gens de notre monde font preuve de plus de bon sens que ceux qui lui appartiennent. Qui c'est qui lui appartient ? C'est nous, moi le premier. La plupart des non-croyants montrent plus de perspicacité dans les affaires du monde que certains croyants n'en manifestent dans les choses de Dieu. Le gérant sacrifia des biens présents pour une récompense future. Il a compris qu'il pouvait utiliser l'argent à des fins non économiques. Je m'explique. Les gens autour de nous connaissent la puissance de l'argent. Ils savent qu'on peut utiliser l'argent pour s'acheter du prestige, pour s'acheter de l'honneur, pour être reconnu par les autres, des fois pour intimider quelqu'un, pour mettre la pression, ce qu'on appelle la corruption, pour faire obéir des gens, pour obtenir leur loyauté, je leur donne de l'argent, ils me sont loyaux, pour corrompre des gens. Les gens de notre société ont très bien compris ça. Mais les chrétiens ne comprennent que rarement que nous pouvons nous servir de l'argent à des fins non économiques qui ont une portée éternelle. Pour, non pas pour corrompre ou pour détruire, mais pour restaurer et rebâtir, pour changer, pour transformer des vies. On peut mettre l'argent au service d'une cause qui nous dépasse. Richard Foster, qui a écrit un livre sur le pouvoir, l'argent et le sexe, dit « Au lieu de nous éloigner de l'argent, nous devons nous en saisir et malgré le mal qu'il peut faire, l'utiliser pour la cause du royaume. » Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, Jésus rappelle à ses disciples qu'ils ne doivent pas investir dans des choses terrestres qui peuvent se corrompre, mais dans les trésors du ciel que rien ne pourra détruire. Jésus nous invite donc à une réflexion, à investir et bien investir. Si je vous pose la question, qui aura-t-il au ciel ? Il y a qui au ciel ? À part Dieu et les anges. Des hommes et des femmes que Dieu a sauvés. Richard Foster dira encore, l'une des manières dont nous pouvons nous constituer un trésor dans le ciel et d'investir dans la vie des gens. Lorsque Jésus nous invite à nous faire des amis avec des richesses injustes, il lance un défi à ses disciples, il lance un défi à chacun d'entre nous. Comment convertir un gain impur en entreprise propre pour le royaume de Dieu ? En fait, il nous propose un blanchiment d'argent, mais un bon blanchiment d'argent. Il ne parle pas ici d'utiliser des gains qu'on aurait fait malhonnêtement pour les blanchir. Il nous amène plus loin. Si ce gérant a employé l'argent de son maître pour s'acheter l'affection des amis de ce monde, les croyants doivent utiliser l'argent de leur maître de manière à ce qu'il nous rapporte des amis pour l'éternité, pour qu'il nous rapporte des amis dans l'éternité. C'est pour ça que le passage nous dit qu'ils vous accueilleront. On parle des gens, des amis qu'on s'est faits, ils vous accueilleront au ciel. Gagnez des gens avec notre argent pour le royaume de Dieu. Dans ce but, ils l'investiront dans l'évangile du royaume qui conduit des pécheurs au salut en Jésus-Christ. Des pécheurs au salut en Jésus-Christ. Donc il ne s'agit pas ici d'acheter sa place au ciel. Si l'argent sert à venir en aide aux personnes dans le besoin, ou permet à quelqu'un de rencontrer Christ, notre investissement terrestre produira des intérêts éternels. Jamie Munson, qui a écrit un bouquin sur l'argent qui s'appelle « L'argent, Dieu ou don de Dieu », dit la chose suivante, « En tant que chrétien, notre générosité devrait en fait s'étendre bien au-delà de l'Église, mais ne jamais exclure l'Église. L'Église n'est pas une organisation. » L'Église est une famille. Le fait de donner pour des causes ou des œuvres charitables sans passer par votre Église dénote de votre part une mauvaise compréhension de ce qu'est une Église ou encore de la négligence. La priorité du chrétien quand il donne, c'est de contribuer au bien-être de l'Église et de sa mission prioritaire d'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus pour le pardon de nos fautes et faire de nous ses enfants. C'est la seule espérance durable, universelle et réelle. C'est l'Église qui a été choisie pour véhiculer ce message, mais aussi d'apporter un soutien concret pour les gens qui sont dans le besoin autour de nous. Alors, bien entendu, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout donner sans prévoir les dépenses quotidiennes de la vie de tous les jours, sans financer les études des enfants, sans garder de l'argent aussi pour se faire plaisir de temps en temps, partir en vacances, tout ce qui contribue aussi à unifier la famille. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Il s'agit d'être équilibré ici, mais nous sommes invités à libérer ce que nous pouvons afin de l'investir pour ce qui compte réellement. Vous savez, Dieu ne vous demandera jamais de donner ce que vous n'avez pas. J'aime l'histoire de ce petit garçon qui amène ses pains et ses poissons. Il amène ce qu'il a entre les mains de Jésus. Mais c'est lorsqu'on dépose entre les mains de Jésus ce que nous avons que Dieu opère la multiplication. Dieu ne vous demandera jamais de donner ce que vous n'avez pas, mais d'apporter ce que vous avez et placer entre ses mains. Le miracle peut prendre place. La multiplication peut prendre vie et porter du fruit. Donc, le motif de votre don est plus important que le montant que vous donnez. C'est avec quelle intention je fais ce que je suis en train de faire. Alors, peut-être nous pouvons aider un voisin dans le besoin. Peut-être on peut contribuer à l'annonce de l'évangile dans des endroits où il n'y a personne pour l'annoncer, pour aller toucher des peuples non atteints. Peut-être on peut parrainer un enfant qui vit dans un pays d'extrême pauvreté. Peut-être on peut aider aussi à financer les études d'un étudiant brillant qui n'a pas les moyens. Il y a toutes sortes de façons de contribuer, d'investir dans la vie des gens. Alors je vais faire une petite parenthèse. Il est important de savoir que nos églises sont reconnues d'utilité publique et qu'en conséquence, vous avez le droit à des déductions fiscales pour les dons que vous faites. Si vous avez plus de questions, Freddy Fry, le trésorier de l'église, est au premier rang. Il peut lever la main, Freddy, que tout le monde le voit. Si vous avez des questions par rapport à ça, que vous n'avez jamais posé cette question, les dons qui sont faits à l'église sont déductibles à 66% de vos impôts puisqu'on est reconnu d'utilité publique. Donc plus de détails auprès de Freddy. Pour ceux aussi qui s'interrogeraient comment fonctionne une église et est-ce que l'argent permet au pasteur de rouler dans une grosse voiture, nos églises fonctionnent en association cultuelle et culturelle avec un trésorier et un conseil d'administration composé de membres de l'église qui votent les budgets, qui votent les salaires des pasteurs, mais aussi de l'attribution des sommes à des œuvres chrétiennes, des œuvres charitables, etc. Donc, pour vous rassurer, les pasteurs ne s'occupent pas de la partie financière de l'Église. Donc pour ceux qui sont nouveaux et qui se poseraient des questions par rapport à ça, ben sachez-le. Vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a Freddy qui est là, il y a les membres du conseil d'administration de l'Église. N'hésitez pas. Vous savez, on est une Église, on est transparent. Donc allez voir les membres du conseil. Les comptes rendus de conseil d'administration sont disponibles également sur demande. Donc vous avez des questions par rapport à ces choses-là, vous allez au point accueil et on pourra vous permettre de lire les comptes rendus des conseils d'administration. Je reviens à mon message. Deuxième point ce matin, l'argent est une puissance qui doit être maîtrisée. Luc 16, 10 à 13, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Ce passage nous démontre que notre attitude face à l'argent témoigne de notre intégrité. Dieu nous demande d'être honnêtes dans les petites choses, même si nous n'en voyons pas l'importance ou qu'on se dit que les autres ne le verront pas. Jésus nous rappelle dans la Bible qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Alors parfois on peut se dire, ouais mais c'est pas si grave si je télécharge un film illégalement sur internet et que je le paye pas. Personne ne le voit, je fais de mal à personne, de toute façon ils gagnent des millions, donc il n'y a pas de souci. Des fois on se dit, mais tout le monde le fait, c'est pas grave. Honorons nos dettes. Vous savez, nos infidélités en matière de finances dévoile notre convoitise et notre soif de posséder, alors que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Notre espérance et la véritable joie ne se trouvent pas dans les choses terrestres, mais dans la personne de Jésus-Christ qui est le seul à pouvoir combler le véritable vide à l'intérieur de nos cœurs. Et c'est ce vide du cœur qui est le véritable problème. Voilà pourquoi Jésus va enfoncer le clou en parlant de servir l'argent. Certaines versions parlent de mammon, peut-être que dans vos Bibles vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Mammon, c'est une translittération d'un mot araméen qui signifie richesse. En fait, on voit que Jésus personnifie l'argent et lui attribue un caractère personnel et spirituel, et Jésus fait de l'argent son rival. Vous savez, derrière l'argent se cachent d'authentiques forces spirituelles qui le rendent efficace et lui donnent une vie propre. L'argent peut devenir un véritable dieu ou une idole pour les gens. Richard Foster dira « Nous utilisons mammon lorsque nous permettons à Dieu de déterminer lui-même nos décisions d'ordre économique. Nous servons mammon lorsque nous lui permettons de déterminer nos décisions d'ordre économique. » Lorsqu'on parle de maître, on parle de quelqu'un qui nous gouverne, on parle de quelqu'un qui nous dicte notre conduite. Et le texte nous dit c'est soit Jésus, soit l'argent. Regardez comment on peut facilement se laisser conduire par l'argent. Il nous arrive souvent de laisser l'argent dicter nos choix. Alors peut-être, messieurs, que vos femmes vous ont dit « Chérie, on va acheter ça ». Et votre réponse immédiate, c'est « On n'en a pas les moyens ». Qu'est-ce qui s'est passé? On a laissé l'argent dicter notre décision. Peut-être qu'on aurait pu répondre « Chérie, on va prier et voir comment Dieu veut nous conduire ». Vous voyez la différence? On peut dire « Non, j'en ai pas les moyens ». Donc tout de suite, c'est l'argent qui dicte le choix que je vais faire derrière. Vous savez, Dieu donne ce qu'il ordonne. Quand Dieu dépose quelque chose sur nos cœurs, quand Dieu nous appelle à réaliser quelque chose, il va nous donner les moyens de l'accomplir. Et en tant que chrétien, on doit reformater notre façon de penser. De dire « c'est pas possible, on n'y arrivera pas, on n'a pas les moyens ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Si Dieu nous appelle à le faire, il va être avec nous pour l'accomplir. Parce que c'est lui qui fait tout à la fin. On a besoin de reformater notre façon de penser. Vous savez, lorsque nous avons le feu vert de Dieu, il n'y a rien qui ne peut s'opposer à sa volonté. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais quand il en ferme une, personne ne peut l'ouvrir. On peut essayer de forcer, on peut essayer de faire un bras de fer avec Dieu. J'ai essayé quelques fois, j'ai toujours perdu jusqu'à aujourd'hui. Et je ne pense pas que je vais commencer à gagner. Le problème, c'est que l'argent produit en nous un sentiment de sécurité. Vous savez, quand le compte en banque est au vert, on se sent bien. Là, quand la paye arrive comme ça, on a l'impression qu'on pourrait conquérir des planètes. Et puis, 3 jours après, c'est... Quand le compte en banque il commence à frôler la zone rouge, ou des fois qu'il l'a bien dépassé, on commence à paniquer. Il y a une goutte de sueur qui commence à couler. On dit « Comment je vais finir ce mois ?» En fait, ça révèle simplement que notre sécurité, c'est pas Jésus, c'est l'argent. Pourtant, Jésus nous promet qu'il est notre sécurité. Il nous promet de ne pas craindre. Il est celui qui nous dit « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus » Matthieu 6, 33. Vous savez, l'argent est une source de puissance. Il nous donne l'illusion de maîtriser nos vies. Il nous donne l'illusion de maîtriser notre environnement et de maîtriser les autres autour de nous. Hélène Farelli a dit la chose suivante. J'ai noté ce qu'elle est. Elle est enseignante agrégée d'économie et de gestion, donc elle sait de quoi elle parle. Elle dit « La puissance de l'argent s'infiltre en celui qu'il détient. Il le possède car il dirige ses pensées et ses actions. » L'apôtre Paul confirmera les propos de Jésus. Et dans 1 Timothée 6,10, il dit « L'amour de l'argent est en effet à la racine, au point de départ de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés, j'ai oublié un S, eux-mêmes bien des tourments. Puisque la puissance de l'argent dirige nos pensées et nos actions, elle nous détourne donc de Dieu. Paul, c'est ce que Paul est en train de communiquer ici. Notons que ce n'est pas l'argent en lui-même le problème, mais c'est l'amour de l'argent. Vous savez, l'argent en lui-même n'a pas de puissance. C'est ce qu'on en fait qui va lui donner de la puissance. L'argent en lui-même, c'est du métal, c'est un billet, c'est un chèque, c'est du papier, c'est rien du tout. Mais c'est ce qu'on va en faire qui communique la puissance à l'argent. Vous savez, l'argent est un bon serviteur, c'est un mauvais maître, comme Internet, la même chose. L'argent n'est pas mauvais, nous dira Jamie Munson, mais quand nous le laissons régner sur notre vie, il provoque la peur, l'inquiétude, la cupidité, la fierté et d'autres manifestations du mal dans notre cœur. L'amour de l'argent nous détourne de la foi, il nous détourne de la confiance en Dieu. Et il nous conduit dans des tourments. Pourquoi ? Parce que les idoles ne paient jamais ce qu'ils promettent. L'argent ne nous donnera jamais la sécurité que seul Jésus peut nous donner. Vous savez, si demain il y a un krach boursier, toutes nos économies peuvent partir en fumée en un rien de temps. On aura un compte avec des chiffres, mais qui ne vaudront strictement rien. Nous avons besoin de placer notre sécurité dans Jésus qui est le rocher véritable que nul ne peut renverser. Placer notre confiance en Jésus, c'est investir sur des fondements solides. La manière dont nous gérons notre argent révèle à quel point Christ est le Seigneur de nos vies. Comment savoir si nous sommes esclaves de l'argent? Simplement avoir l'esprit occupé par des questions financières. Alors bien sûr que certains d'entre nous, on peut être mis dans des dettes et on peut être plongé dans des trucs qui viennent nous voler notre temps. Mais je crois à ce Dieu fidèle qui, quand on prend en compte nos erreurs, qu'on se rend compte, qu'on dit « mais là, j'ai mal fait », mais qu'on s'appuie sur Dieu, petit à petit, il va nous accompagner et il va multiplier pour nous ramener à une santé financière équilibrée. On a le témoignage à l'église où j'étais avant d'un frère qui était dans des dettes complètes et quand il est venu au Seigneur, il n'avait presque rien. Mais il a commencé à être généreux avec le peu qu'il avait. Et puis il a travaillé avec le trésorier de notre église justement aussi pour, de mon ancienne église pardon, de travailler à ses points de difficulté. Et tout doucement, il a remis le bateau à flot. Alors qu'au départ, c'était avec quatre chiffres et des choses compliquées pour quelqu'un qui n'avait pas un salaire de fou. Mais par contre, il s'est appuyé sur Dieu et Dieu a été fidèle. Moi, je crois à ce Dieu-là. Je crois à ce Dieu qui prend soin de nous. Je ne crois pas à un Dieu qui me dit « tu vas rouler en Rolls-Royce, tu vas faire ci, tu vas faire ça ». Mais je crois à Dieu, quand je place ma foi, quand je place ma confiance en lui, que je reconnais mes erreurs, que je reconnais mes manquements, et que je décide de changer, que je travaille pour changer, alors il va m'accompagner dans le processus, et il va m'amener à flot, parce que mon Dieu prend soin de mes besoins. Amen. Troisième point, la générosité est une arme pour renverser la puissance de l'argent sur nos vies. Romains 12:8, Paul nous dit « Que celui qui donne le fasse avec générosité ». Le contexte de ce passage cité par Paul, c'est un passage où il invite les disciples de Jésus à ne pas se conformer avec la mentalité de ce monde, avec le siècle présent dans lequel ils vivent, mais de se laisser transformer par l'œuvre de l'Esprit en eux, qui va les façonner au fur et à mesure selon la mentalité du royaume de Dieu. Le mot générosité employé ici par Paul, c'est le mot aplotes, qui signifie sans égoïsme, qui nous parle avec de donner avec ouverture de cœur, se manifestant par la générosité. C'est-à-dire de chercher les intérêts des autres parce qu'ils vont gagner par notre don plutôt que parce que nous allons perdre en leur donnant. C'est de chercher les intérêts des autres. Qu'est-ce que ça va apporter dans la vie de celui en qui j'investis, plutôt que, purée, si je lui donne, j'aurai moins pour satisfaire mes petits besoins. C'est avec cette mentalité que Paul nous invite à donner. Comment détrôner le pouvoir et l'attraction que l'argent peut exercer sur nous? Foster nous donne un élément de réponse. Les puissances qui donnent à l'argent son énergie ne supporte pas l'acte le moins naturel de tous, le don. L'argent est fait pour être pris, pour marchander, pour manipuler, mais pas pour être donné. C'est la raison pour laquelle le fait de donner a la capacité de vaincre la puissance de l'argent. Vous savez, lorsque nous partageons nos ressources, nous montrons à la puissance de l'argent que nous ne dépendons pas d'elle comme source de sécurité, mais que nous dépendons de Dieu. Ça détruit l'avare et l'avidité qui sommeillent en chacun d'entre nous. Et ça détruit nos fausses sécurités, cette idole de l'argent qui nous fait croire que parce que j'en ai, je suis en sécurité. Lorsque nous donnons, c'est nous-mêmes que nous donnons. Parce que l'argent est une forme de pouvoir qui est intimement liée à notre personne. Vous savez, souvent, quand on a gagné de l'argent, on dit « je l'ai parce que je l'ai mérité, c'est à moi ». Sauf que la Bible nous dit que l'argent, ce n'est pas à nous, c'est à lui. Et que nous, on est là pour administrer sainement les finances du royaume. Amen. Vous êtes toujours là, hein ? Vous savez, Jésus, dans son ciel de gloire, possédait des richesses sans limite. Et il a accepté de tout perdre. En prenant notre condition, avec nos limites, nos incompréhensions, nos difficultés, il est venu sur terre. S'il avait tout gardé pour lui, nous serions morts dans notre pauvreté spirituelle. Mais Jésus s'est fait pauvre afin que nous devenions riches en lui. Jésus a tout donné. On va conclure. Je vais redemander à l'équipe de venir. On va peut-être prendre le champ libre de nos chaînes. On conclut ce matin dans cette parabole. Jésus lance un appel à ceux pour qui l'avarice et la richesse rendent aveugles, à la nécessité de répondre à l'évangile, à l'évangile à bien des personnes autour de nous. Vous savez, par notre générosité, des vies peuvent être transformées. Et la puissance de l'ennemi, elle peut être brisée sur nos vies lorsque je suis généreux. Je voudrais qu'on puisse prendre un temps de prière ce matin. Pour plusieurs qui peuvent être liés et paralysés par des peurs et des craintes à cause du manque de finances. Je crois que Dieu veut opérer dans les cœurs ce matin. Il y a des gens, vous êtes paralysés ce matin dans ce lieu à cause d'une question financière. Et je crois que Dieu veut intervenir dans vos vies pour mettre cette paix surnaturelle qui dépasse toute intelligence. L'intelligence humaine veut que quand j'ai de l'argent, je suis en sécurité. Mais Dieu veut communiquer cette paix qui surpasse nos raisonnements humains. Et je crois qu'il appelle plusieurs ce matin et qu'il dit « Fais-moi confiance pour tes finances. Fais-moi confiance pour tes finances. Je suis avec toi. » On peut commencer à jouer si vous voulez. Je crois que Dieu veut faire tomber la puissance que l'argent peut exercer sur plusieurs dans ce lieu. Vous savez, ce n'est pas l'argent qui prend soin de nous, mais c'est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Il est celui qui promet de prendre soin de toi, de prendre soin de tes besoins. Mais il est aussi celui qui t'appelle à faire de son royaume ta priorité. La Didaké, c'est un document chrétien qui date de la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle, et où les premiers disciples des disciples de Jésus, on va dire, on dit la chose suivante, n'aie pas les mains tendues quand il s'agit de recevoir, mais fermées quand il faut donner. Soyons fidèles, engagés envers l'église locale, envers notre communauté, envers les besoins qui sont là. N'oublions pas que l'église, et on l'a vu sur les derniers dimanches, est une ambassade, un avant-poste du royaume qui produit la vie où Jésus manifeste sa grâce. Et quand on va faire de ce royaume cette priorité dans nos vies, on va expérimenter ce passage de Matthieu 6:33 qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. » J'aimerais qu'on ferme les yeux un instant. Et s'il y a des gens qui sont liés par des peurs au sujet des finances, je vous invite simplement, comme un geste de foi ce matin, à vous mettre debout à votre place. C'est pas pour qu'on juge ou quoi que ce soit. C'est parce que je crois que Dieu veut opérer ce matin. Je crois que Dieu parle à plusieurs dans ce lieu. Et il veut te libérer de la peur ce matin. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui se lèvent dans ce lieu ce matin, qui sont là comme paralysés à cause des choses financières. Tu es celui qui prend soin des petits oiseaux du ciel, c'est ta parole qui nous le dit. À combien plus forte raison tu prends soin de chacun d'entre nous qui avons été créés pour refléter ton image dans ce monde. Je te prie de libérer des captifs ce matin dans ce lieu. Je te prie de libérer les captifs ce matin dans ce lieu. Je te prie pour des prises de conscience, peut-être pour un travail d'accompagnement, pour retrouver des finances saines. Et je crois que tu veux le faire dans ce lieu. Viens toucher, viens visiter. Tu es le Dieu fidèle. fortifie ce matin dans ce lieu. Fortifie ce matin dans ce lieu. Tu es le Dieu qui prend soin de nous. Et tu es le Dieu qui veut nous libérer de nos chaînes. Je te prie, Seigneur, pour que l'Épi soit reconnue pour une église généreuse. Une église qui envoie des hommes, des femmes, des jeunes gens sur le terrain de la mission pour annoncer le plus beau des messages. Celui qui dit que Jésus est mort à la croix pour le péché de l'humanité, qu'il a donné sa vie pour faire un peuple. Je crois que Dieu veut envoyer au travers de l'Épi encore et encore. Et ça passe par chacun d'entre nous. Investissons dans la vie des gens. Investissons dans la vie des gens. Parce que ça, ça va rapporter dans le ciel quand nous serons tous dans la présence de Jésus. Notre Dieu est fidèle et il va prendre soin de vous. Alléluia.